Vous écoutez Radio France Internationale, il est 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. RFI Matin, l'actualité africaine avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. On revient sur la position réaffirmée de Félix Tshisekedi. Le président congolais ne veut toujours pas de dialogue direct avec le M23, groupe armé soutenu par le Rwanda et dont il a même qualifié les membres de pantins. Le chef de l'État dit vouloir un dialogue avec Paul Kagame, son homologue rwandais, lui qui mise pleinement sur l'option militaire pour défendre l'Est de son pays. Un conflit dénoncé en musique par 6 poids lourds de la scène rap francophone. Le titre Free Congo a déjà dépassé le 1 million de vues sur YouTube. La guerre en Ukraine également à la une ce lundi à l'occasion des 3 ans de l'éclatement. Elle avait provoqué un bouleversement à l'époque sur le marché africain des engrais. Où en est-on aujourd'hui ? On se pose la question dans ce journal. Et puis on poursuit notre promenade dans les allées du Salon de l'Agriculture à Paris. Après le stand du Soudan hier, Penaï Traoré nous fait découvrir celui de la Côte d'Ivoire. Ambiance assurée et épicée. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo pour démarrer ce journal. Week-end relativement calme sur les fronts ouverts. Cela a été le cas dans les Kivu, dans le territoire de Lubero au nord, comme au sud, où le M23 soutenu par le Rwanda a réalisé des progressions le week-end dernier en prenant notamment le contrôle de la capitale provinciale Bukavu. Et en coulisses, alors qu'il rencontrait les élus et caciques de sa coalition samedi, Félix Tshisekedi, le président, a une nouvelle fois confirmé sa position. Pas de dialogue direct avec le groupe armé dont il a qualifié les membres de pantins. À Kinshasa, les précisions de Coralie Pierret.
En réaffirmant son refus de dialoguer directement avec le M23, le président Félix Tshisekedi est resté campé sur ses positions. « Je veux un dialogue, mais je veux un dialogue avec leur maître », a-t-il affirmé devant sa majorité présidentielle samedi, en faisant référence au président rwandais Paul Kagame, qui l'accuse d'être derrière le M23. Le président congolais ne veut pas céder à la pression alors que le rapport de force lui est défavorable sur le terrain militaire, analyse Trésor Kibangula, directeur du pilier politique de Ebouteli, un institut de recherche congolais. Plusieurs appels au dialogue, dont celui des églises catholiques et protestantes, ont été lancés ces derniers jours. En réalité, Kinshasa n'écarte pas la discussion avec le M23, mais souhaite que cela se passe dans le cadre du processus de Nairobi, poursuit le chercheur. En attendant, Félix Tshisekedi continue de défendre l'option militaire et de chercher de nouveaux partenaires. Il a promis une refonte totale de l'armée congolaise et a reconnu, dit-il, des trahisons qui explique en partie les résultats sur le terrain. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Félix Tshisekedi qui semble déterminé à défendre l'option militaire face aux avancées du groupe M23 dans l'est de son pays. Mais cette option ne peut être suffisante selon son prédécesseur, Joseph Kabila, qui sort d'un long silence de 6 ans en publiant une tribune dans le journal sud-africain Sunday Times. L'ancien chef de l'État rend responsable l'actuel pouvoir de la crise sécuritaire. Il accuse Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime tyrannique et évoque un pays au bord de l'implosion. Joseph Kabila qui s'adresse également aux dirigeants sud-africains et de la SADC, leur faisant savoir que la solution à la crise ne réside pas uniquement dans l'envoi de troupes et d'équipements militaires. Un conflit qu'ont cherché à dénoncer des rappeurs francophones, tous originaires de République démocratique du Congo, Youssoupha, Damso, Nino, Kalash Criminel et Jossman, réunis autour de Gradure sur le titre Free Congo. Un titre engagé, Eva Massi.
Des millions de morts au nord qui vont, personne n'en parle. Il se passe des dingues au pays de mes remparts.
Bien plus qu'une musique, un vrai cri du cœur. Dans Free Congo, 6 artistes dénoncent un génocide en cours dans le pays de leurs parents. Le rappeur Gradure a réuni Youssoupha, Damso, Nino, Jossman et Kalash Criminel, tous d'origine congolaise. Ils posent chacun leur tour des paroles percutantes sur la souffrance des habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Les paroles chantées en français sont sous-titrées en anglais, comme pour s'assurer de porter le message encore plus loin. En dessous du clip, on lit une indication « S'informer, c'est agir » et les fans, et pas que, y retrouvent des suggestions de documentaires à voir sur le sujet. Et c'est ainsi que Goma, Bukavu et toute la RDC sont désormais sur la scène du rap tricolore. Avec Free Congo, Gradure et ses compagnons nous rappellent que la musique et la notoriété peuvent servir à soutenir une cause, celle d'un Congo libre et prospère.
On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans caca, mais sans M23.
Un sujet signé Eva Massi est sorti vendredi sur YouTube. Le clip cumule déjà près d'1 500 000 vues. Et pour être le plus complet possible sur le dossier congolais, j'ajoute que les chefs d'état-major de l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est, ont conclu leur discussion sur la situation sécuritaire en RDC. Leurs conclusions doivent être examinées ce lundi lors d'une réunion commune entre EAC et SADC prévue à Dar es Salaam en Tanzanie. Une rencontre qui marque la première étape de la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet conjoint du 8 février dernier. Le Soudan est également en guerre. Bientôt 2 ans de combat entre les hommes du général Al-Burhan et ceux du général Emeti. Ces derniers, les paramilitaires FSR, ont signé hier à Nairobi une charte fondatrice pour un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan. En tout, ce sont 24 organisations qui se sont mises d'accord, de la société civile, des partis politiques et des groupes armés. S'en est suivie cette réaction du chef de la diplomatie soudanaise, Ali Youssef. Son pays n'acceptera pas la reconnaissance d'un gouvernement parallèle et n'acceptera pas non plus qu'un autre pays le fasse, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse tenue avec son homologue égyptien au Caire. Sur le terrain, enfin, l'armée a affirmé ce dimanche avoir brisé le siège de la ville d'El Obeid, une ville clé du sud du pays, encerclée par les forces de soutien rapide depuis le début de la guerre en avril 2023. Conflit au Congo, conflit au Soudan, conflit en Ukraine également. C'est le 3e anniversaire du début de la guerre ce lundi. Son déclenchement, rappelez-vous, avait bouleversé le marché africain des engrais, ce qui avait conduit à une réduction des rendements agricoles sur le continent. Mais alors, 3 ans après, quelle est la situation aujourd'hui? Élément de réponse avec Claire Fage.
En 2022, les États africains voient soudain l'accès aux engrais russes dont ils sont très dépendants bloqué à cause des sanctions financières européennes contre Moscou. Mounir Alim, PDG d'Africom, agence de conseil sur le marché africain des engrais.
La plupart des transactions en Afrique utilisaient des banques européennes, alors que ces banques ont arrêté les transactions de la Russie. Donc ça a pris du temps pour les traders de trouver des moyens pour transporter du produit russe vers l'Afrique. Certains traders ont trouvé d'autres moyens, c'est-à-dire d'utiliser d'autres banques pour transférer l'argent. Il n'y a pas que les banques européennes qui financent ce trade.
Mais le défi principal, c'est le prix des engrais qui bondit de 400%.
À l'époque, on a dépassé les 1000 dollars à la tonne pour les engrais principaux. Donc aujourd'hui, ça a baissé. On est à des niveaux de 400 à 600 dollars, ça dépend des fertilisants.
Malgré cette accalmie, les acheteurs africains moins réactifs aux fortes et fréquentes variations de prix que le Brésil, l'Europe, l'Inde ou les États-Unis subissent cette volatilité devenue la règle, ce qui a fait rechuter les importations africaines d'engrais de 20% en 2024.
Les explications de Claire Fage du service économie de Radio France Internationale. Le Gabon dans ce journal et les délestages qui pourraient peut-être se transformer en mauvais souvenirs pour les habitants de la province du Wolontem. Cela grâce à la Guinée équatoriale voisine qui va fournir 10 mégawatts pour pallier le déficit énergétique dans les villes du Nord. Ce samedi, les deux pays ont d'ailleurs procédé au raccordement de leur réseau électrique. RFI Libreville, Yves-Laurent Goma.
Théodoro Obiangema de la Guinée équatoriale et Brice Clotaire Oligingema du Gabon ont simultanément coupé le ruban symbolique. Ils ont aussi appuyé sur le bouton qui a allumé les lampes du côté gabonais. Dans un premier temps, Bitam, la ville gabonaise située à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, est la première bénéficiaire de cette interconnexion. 3 mégawatts permettent depuis samedi de mettre fin au délestage dans cette ville. Des travaux sont en cours pour étendre l'électricité de la Guinée équatoriale vers les villes d'Oyem, Mindik et Medouneu, proches de Libreville. Jusqu'à ces jours, ces villes étaient alimentées via des centrales thermiques à gasoil défectueuses et trop coûteuses. Aucun chiffre n'a été communiqué sur le coût de la facture que le Gabon réglera à la Guinée équatoriale pour les 10 mégawatts attendus. Les représentants de la CEMAC, ceux de la CEAC et les autorités gabonaises focalisent plutôt leur communication sur ce modèle réussi de coopération régionale. Yves-Laurent Gomard, Libreville, RFI.
L'actualité du continent en bref et l'agence américaine Moody's qui revoit à la baisse la note du Sénégal de B1 à B3 avec des perspectives négatives. Cela après les révélations de la Cour des comptes il y a une dizaine de jours qui a relevé des anomalies dans la gestion de l'argent public de 2019 à 2024, soit sous le mandat de l'ancien président Macky Sall. Et puis la fin de ce journal, en promenade dans les allées de la plus grande ferme de France, le Salon international de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce samedi. Pays d'honneur, et c'est une première cette année, c'est le Maroc, mais une dizaine de pays africains sont également représentés pour cette 61e édition. Et parmi eux, la Côte d'Ivoire, habituée du salon, qui sait bien comment attirer les visiteurs. C'est un reportage de Kpenaï Traoré.
Vivre une ambiance abidjanaise en étant au Salon de l'agriculture à Paris. C'est le secret de la Côte d'Ivoire pour attirer du monde et mettre la lumière sur ses produits phares. Et ça marche.
En fait, on est voir le chocolat et puis on a découvert aussi la mangue qui a l'air très très bonne. Enfin, qui est très très bonne, j'ai goûté.
Je vais finir le paquet. C'est très très bon et en plus ça permet aussi de découvrir un petit peu les épices de la Côte d'Ivoire.
Ce jeune Ivoirien vivant en France ne cache pas son enthousiasme.
J'apprécie ma culture, donc je profite de l'occasion, je prends des images pour me rappeler, pour me souvenir, je photographie non seulement la fontaine de chocolat, pour dire que vraiment la Côte d'Ivoire était présente. Et vous voyez l'ambiance que la Côte d'Ivoire met ici, contrairement aux autres pays.
Même si la Côte d'Ivoire est connue pour son café et son cacao, elle entend promouvoir d'autres produits récemment labellisés. Drissa Koné est le conseiller économique de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris.
La Côte d'Ivoire a trois produits aujourd'hui qui sont reconnus au niveau international. La tequée de Côte d'Ivoire vient d'être labellisée par l'UNESCO. Et également, on a les pains de baoulé et le café de Dizzy Montagne. Donc l'occasion est donnée de pouvoir déguster les produits ivoiriens.
La délégation ivoirienne profitera de sa participation au Salon de l'agriculture pour inciter la diaspora à investir dans des filières comme le coton et l'anacarde.
Un reportage de Kpenaï Traoré à retrouver tout comme ce journal sur RFI.fr. Vous retrouvez tout de suite Arnaud Pontus.